VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
République centrafricaine, Alfred Yekatom et Patrice Edward Gaïsena, accusés de crimes de guerre, seront jugés ensemble, a décidé la CPI.
En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila tente de resserrer les rangs de sa famille politique, alors que l'on attend toujours la nomination du nouveau Premier ministre de Félix Tshisekedi.
Au Nigeria, le chef de l'armée a exhorté les officiers à faire preuve de loyauté et à lutter contre la fraude électorale à la veille de la présidentielle de samedi.
Sommet lundi à Niamey, au Niger, des chefs d'État et de gouvernement de 17 pays du Sahel.
Ici, aux États-Unis, arrestation d'un garde-côte américain qui préparait des meurtres ciblés pour établir, je cite, une patrie blanche.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La Cour pénale internationale a décidé de juger ensemble Alfred Yekatom et Patrice Edward Gaïsena, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
La jonction entre les deux dossiers vise à accroître l'équité et la rapidité de la procédure en évitant le double emploi des preuves, les incohérences dans la présentation et l'évaluation des preuves, a fait savoir la chambre préliminaire de la CPI. L'objectif est aussi d'épargner aux témoins et aux victimes les conséquences indues ainsi que des dépenses inutiles, a précisé la chambre, assurant que la procédure garantit aux suspects les mêmes droits que s'ils comparaissaient individuellement. Président de la Fédération centrafricaine de football et membre du comité exécutif de la CAF, Gaïsena a été arrêté le 12 décembre en France et extradé le mois dernier à La Haye. Il était le coordonnateur des milices anti-Balaka. Yekatom, alias Colonel Rambo, était lui aussi un leader anti-Balaka. Il fait face à 14 chefs d'accusation. Leur audience de confirmation des charges débutera le 19 juin 2019.
En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila est sorti de sa toute récente retraite mercredi pour resserrer les rangs de sa famille politique qui doit devenir une plateforme de gouvernement face au nouveau chef de l'État issu de l'opposition, Félix Tshisekedi. Sa coalition du Front commun pour le Congo, le FCC, a gardé la majorité au Parlement d'après les résultats officiels des résultats généraux des élections générales du 30 décembre. Un mois après la première transition pacifique dans l'histoire de la RDC, M. Tshisekedi n'a pas désigné de Premier ministre pour former un gouvernement. Il travaille avec l'équipe léguée par M. Kabila.
Au Tchad, une information judiciaire a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant une femme fouettée par deux hommes qui semblent être des militaires dans la région du lac Tchad, a annoncé mercredi le ministre tchadien de la Justice. Les auteurs de ces actes sont interpellés et ne tarderont pas à être déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, a déclaré à l'AFP le ministre Djimet Arabi. Selon un militant tchadien des droits de l'homme, la victime a affirmé que l'un des deux hommes était un commandant de l'armée dont elle avait repoussé les avances. L'AFP n'a pas pu joindre les deux hommes incriminés.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier à déjeuner au palais de Koulouba à Bamako le journaliste Issiaka Tamboura et le préfet de Ténénkou, Makan Doumbia, pris en otage dans le centre du pays par des djihadistes présumés et dont le gouvernement a affirmé avoir obtenu la libération. Un troisième otage, président du tribunal d'instance de la localité de Nyono dans le centre, est lui décédé en détention fin janvier, ont indiqué les autorités. Il avait été enlevé à son domicile en novembre 2017 par des hommes armés.
Au Nigeria, le chef de l'armée a exhorté les officiers à faire preuve de loyauté et à lutter contre la fraude électorale. Les élections générales dans ce pays ont été reportées à samedi. Le point avec Eric Manirakidza.
Les commandants doivent agir de façon décisive contre tout crime électoral, a lancé le général Tuko Youssouf Buratai, et les exhorte à faire preuve de loyauté envers l'autorité. C'était lors d'une réunion de hauts responsables militaires hier à Abuja. Ces déclarations interviennent au moment où la tension monte après le report d'une semaine des élections qui devait avoir lieu samedi dernier. Le Congrès des progressistes au APC au pouvoir a tenu une réunion lundi au cours de laquelle le président sortant Muhammadu Buhari a eu des mots très durs. Il avait demandé aux militaires et à la police d'être impitoyables avec ceux qui se rendraient coupables de fraude électorale. L'opposition a critiqué ces propos, les considérant comme un encouragement à la violence. L'ancien vice-président et candidat du PDP, Atiku Abubakar, a déclaré que l'avertissement de M. Buhari constituait un rappel de l'ère de la dictature et du régime militaire.
Les chefs d'État et de gouvernement de 17 pays du Sahel vont tenir un sommet lundi à Niamey pour valider un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars sur 12 ans. Claire Morin-Gibourg.
Les 17 États de la bande sahélienne, allant de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique, sont concernés par ce plan très ambitieux, selon les mots du ministre nigérien de l'Environnement, Al-Mustapha Garba, qui l'a présenté hier. Ce plan d'investissement climatique est axé sur 6 projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions des gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Son coût est estimé à 400 milliards de dollars sur la période 2018-2030. Al-Mustapha Garba a insisté pour que ce programme prioritaire soit mis en œuvre sans attendre. Le plan sera soumis aux partenaires techniques et financiers lors d'une table ronde mardi prochain à Niamey en vue de son financement. La région du Sahel, qui abrite plus de 500 millions d'habitants, est extrêmement vulnérable face au changement climatique.
En visite à Khartoum, un responsable américain a prévenu hier que l'usage de la force excessive contre les manifestants est inacceptable et peut menacer les discussions pour retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Des détails avec Raissa Girondin.
Il est absolument inacceptable de faire usage d'une force excessive pour réprimer les manifestants, ainsi que les détentions sans charge, tout comme l'usage de la brutalité et la torture, a affirmé Cyril Sartor, directeur Afrique au Conseil national de sécurité américain en visite à Khartoum. Les États-Unis ont repris leurs relations avec le Soudan après des décennies de tensions. L'administration Donald Trump a levé en 2017 certaines sanctions, mais a maintenu le Soudan dans la liste des États soutenant le terrorisme. Le pays est depuis 2 mois le théâtre des manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. La contestation s'est transformée en un mouvement réclamant la chute du président Omar el-Béchir. Les services de sécurité emploient la force pour disperser les rassemblements. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le 19 décembre. L'ONG Human Rights Watch parle de 51 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, comparution devant un tribunal d'un garde-côte américain, Christopher Paul Hasson, accusé de s'être constitué un arsenal imposant pour une campagne sans précédent de terrorisme intérieur et de meurtre de masse dans le pays. Les procureurs fédéraux ont demandé que le suspect reste en détention jusqu'à son procès. Hasson a été interpellé la semaine dernière à son domicile dans la banlieue de Washington, où des drogues illicites ont été également saisies. Ce suprémaciste blanc, admirateur du tueur de masse norvégien Anders Breivik, projetait aussi de s'en prendre à plusieurs personnalités politiques démocrates et figures médiatiques. Il s'est décrit lui-même dans des documents comme, je cite, « un nationaliste blanc de longue date, un homme d'action et un partisan d'une violence ciblée destinée à établir une patrie blanche ». Fin de citation.
En Syrie, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont quitté hier l'ultime poche du groupe État islamique dans l'Est, une évacuation qui rapproche les forces arabo-kurdes des FDS, soutenues par Washington, de la victoire face aux djihadistes. Un nombre important de civils sont néanmoins encore retranchés avec les derniers djihadistes dans la petite poche de Baghouz, une zone d'un demi-kilomètre carré tout près de la frontière irakienne, selon des responsables de l'alliance arabo-kurde.
Ajoutons que le président Trump a dit dans un tweet avoir donné l'ordre de ne pas autoriser le retour aux États-Unis de la djihadiste Hoda Moutana, détenue dans le nord-est syrien et désireuse de revenir dans le pays où se trouve sa famille. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait auparavant assuré dans un communiqué que cette dernière n'était pas une citoyenne américaine.
Le président Donald Trump a dit hier que la décision de rendre public ou non le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 appartient entièrement au nouveau ministre de la Justice, William Barr. Ce rapport, selon la chaîne CNN, pourrait être prêt dès la semaine prochaine et un résumé de ce document confidentiel pourrait être soumis par M. Barr au Congrès.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido part ce jeudi avec un convoi de ses partisans à la frontière avec la Colombie pour tenter de faire entrer dans son pays l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis et que bloque l'armée fidèle au président Nicolas Maduro. Monsieur Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim, se dit déterminé à briser le blocus militaire imposé par Monsieur Maduro.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour desserrer l'étau financier qui étrangle son économie, le Zimbabwe supprime la parité fixe entre le dollar américain et sa quasi-monnaie, le banknote, dont la valeur n'a cessé de chuter au marché noir. Ces banknotes, rebaptisées dollar RTGS, seraient échangées sur un nouveau marché interbancaire de devises. Ce système est censé éviter à quiconque d'avoir à acheter des devises sur le marché parallèle. Le dollar RTGS constitue désormais l'unité de référence pour tout le monde afin d'établir la valeur des biens, services, dettes et transactions dans le pays. Le budget alloué à la publicité en ligne aux États-Unis en 2019 va dépasser pour la première fois celui consacré aux supports traditionnels, affichage, presse, télévision et radio. Il devrait atteindre 129 milliards de dollars, en hausse de 19%, contre 109 milliards pour les autres supports qui connaissent une baisse de 4%. E-Marketer prévoit un bond de plus de 58% de la publicité numérique d'ici 2021. Pour finir, la brigade financière d'Italie a saisi plus de 700 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur des ventes frauduleuses de diamants impliquant les quatre principales banques du pays, Banco BPM, Monte dei Paschi, Unicredit et Interessa San Paolo. Les ordres de saisie ont également visé deux courtiers en diamants, Intermarket Diamond Business et Diamond Private Investment, pour 581 millions d'euros.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Salaire impayé des footballeurs au Cameroun, la Ligue cède à la pression de la FIFA.
Oui, la Ligue de football professionnel a débloqué 84 millions de francs CFA à destination des clubs, soit environ 3 millions pour chaque club de Ligue 1 et 2 millions pour ceux de Ligue 2. L'instance annonce qu'elle exigera des justificatifs pour vérifier que cette somme a bien été utilisée pour régler les arriérés de salaire et pas à d'autres fins. Le syndicat national des footballeurs du Cameroun et la FIFPro avaient alerté la FIFA sur les conditions salariales des joueurs du championnat dont certains n'ont pas touché de salaire depuis près de 2 ans.
Emmanuel Boateng file en Chine.
Oui, le départ de l'international ghanéen de 22 ans pour Dalian Yifang a été officialisé par le club espagnol Levante. Emmanuel Boateng s'est engagé avec le club chinois contre un chèque de 11 millions d'euros. Il était arrivé à Valence lors de l'été 2017 en provenance de Morerense. Le Black Star devient la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club valencien, après celle du défenseur colombien Jefferson Lerma, parti à Bournemouth pour 28 millions d'euros l'été dernier.
Du basket, Abidjan accueille les éliminatoires du Mondial de la discipline.
Oui, cette sixième fenêtre du tournoi qualificatif au Mondial prévu en Chine se déroulera du 22 au 24 février. 6 pays prendront part à ces éliminatoires. Il s'agit du Nigeria déjà qualifié, du Sénégal bien placé pour arracher la deuxième place qualificative dans ce groupe F. La Côte d'Ivoire, le Rwanda, la République centrafricaine et le Mali se battront pour la place de meilleur troisième en concurrence avec le Cameroun dans le groupe E, où la Tunisie et l'Angola sont déjà qualifiés. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball y croit.
Nous sommes à 3 matchs d'une qualification pour le Mondial 2019 en Chine. Nous avons 3 matchs à gagner en Côte d'Ivoire contre le Nigeria, le Rwanda et le Mali. Nos meilleurs joueurs expatriés ont décidé de venir défendre les couleurs de leur pays afin de pouvoir se qualifier pour ce mondial. Se qualifier pour ce mondial, c'est pouvoir jouer en Chine contre éventuellement les États-Unis, contre la France, contre les meilleurs pays du monde. Ça sera une véritable vitrine pour le basket ivoirien.
Mathieu Agui au micro de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan. L'Afrique a droit à 5 places à ce mondial prévu du 31 août au 15 septembre 2019. Il reste encore 2 billets disponibles pour le continent.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, malgré la défaite de son candidat Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle du 30 décembre dernier, le Front commun pour le Congo, ancienne coalition au pouvoir, fait bloc et annonce qu'il va diriger le prochain gouvernement. Cette coalition de l'ancien président Joseph Kabila revendique 340 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale de la RDC. Elle attend désormais du nouveau président Félix Tshisekedi qu'il tire les conséquences de cette majorité parlementaire et désigne dans ses rangs, conformément à la Constitution, le futur Premier ministre. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prenant acte de sa défaite à la présidentielle du 30 décembre dernier, le Front commun pour le Congo se satisfait tout de même d'avoir raflé la majorité à l'Assemblée nationale. Maître Nehemi Mwilanya, ancien directeur de cabinet du président sortant Joseph Kabila, est le coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo.
La présidentielle ne nous a pas porté chance, mais en même temps, aujourd'hui, nous avons une large majorité parlementaire. La majeure partie des députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont des députés qui ont été élus sous la bannière des regroupements politiques membres du Front commun pour le Congo.
Les cadres du FCC s'engagent désormais à se soumettre à la discipline de groupe. Ils ont pour cela manifesté leur solidarité et fidélité à leur initiateur Joseph Kabila. Obin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale et haut cadre du FCC, souligne que désormais le président Félix Tshisekedi devrait tirer les conséquences de cette majorité parlementaire acquise au FCC et conformément à la Constitution, nommer un Premier ministre issu des rangs du Front commun pour le Congo.
Il y a une majorité parlementaire. Aujourd'hui, ce que nous allons avoir comme majorité se nomme FCC. Il faut en tirer les conséquences de droit. Et je suis sûr, je sais que le président de la République, qui est respectueux de la Constitution, tirera les conséquences.
Hier, coalition électorale, le FCC se mue désormais en plateforme politique et de gouvernement. Lambert Mende Omalanga est le porte-parole du gouvernement sortant.
La décision qui a été prise, c'est de transformer cette plateforme électorale que nous avons créé en une coalition gouvernement autour du président du Front commun pour le Congo qui est l'ancien président de la République, Joseph Kabila.
Et les Kinois interrogés au sujet du prochain Premier ministre FCC en attendent notamment une meilleure collaboration avec le président de la République, Félix Tshisekedi.
En ce qui concerne le Premier ministre qui viendra de FCC, que le Premier ministre qui viendra puisse aider les présidents au travail, qu'il puisse avoir bonne volonté d'y travailler bien avec le président en place pour que le peuple puisse se retrouver.
D'abord, cela ne vaut pas une surprise, d'autant plus que c'est constitutionnel et ils sont majoritaires au Parlement. Mais néanmoins, ça me laisse un sentiment de crainte dans la mesure où toutes les années antérieures qu'on a vécues, c'est le FCC qui a dirigé. Alors, nous risquons de tomber dans la routine et qu'à ce moment-là, on pourra dire adieu les changements. C'est ce que je crains.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, l'épidémie de fièvre Ebola est actuellement maîtrisée à Beni dans l'est du pays selon le ministère de la Santé. Beni a été l'un des épicentres de l'épidémie de cette fièvre hémorragique avec 118 décès de cas confirmés. Au micro de Yakuba Ouedraogo, Jessica Ilunga, porte-parole du ministère congolais de la Santé.
Cela fait 21 jours que la zone de Beni n'a pas notifié de nouveaux cas confirmés d'Ebola. Et ça constitue vraiment une avancée remarquable, surtout lorsqu'on sait que Beni a connu une flambée épidémique avec des pics importants de cas entre septembre et novembre 2018.
Est-ce à dire qu'il n'y a plus de risque de contamination à Beni?
Non, ça on ne peut pas dire, parce que donc Beni n'est pas hors de danger, simplement parce qu'il y a des mouvements importants de la population entre Beni et les zones de santé voisines, les villes voisines, qui elles par contre continuent à rapporter des cas. Par exemple, le foyer actuel de l'épidémie se trouve dans les zones de Boutembo-Katoa, qui sont situées à 60 km de Beni. Et ces deux zones, à elles seules, ont rapporté 80% des cas confirmés d'Ebola notifiés au cours des 21 derniers jours.
Qu'en est-il des autres foyers, dont Boutembo et Katoa?
Ces deux foyers constituent réellement les foyers principaux de l'épidémie à l'heure actuelle. Et c'est aussi pour ça que nous concentrons énormément d'efforts dans ces zones-là. Parce que tant qu'il y a encore des cas d'Ebola dans une zone de santé, le risque de propagation dans les zones voisines reste présent. Donc on a déjà renforcé les activités à Boutembo-Katoa et les plus grandes difficultés auxquelles on a fait face dans ces zones-là, c'était la réticence communautaire, mais c'est pour cela qu'on investit beaucoup dans tout ce qui est engagement communautaire, collaboration avec les leaders.
Pour revenir à Beni, on sait qu'il y avait des porteurs présumés du virus. En ont-ils été guéris ou s'est-il avéré qu'il n'en est rien?
À Beni, on a eu énormément de guéris, comme dans toutes les autres zones de santé. Au total, à ce jour, on compte 255 guéris à travers le pays.
Quel bilan vous faites de l'épidémie à virus Ebola depuis le début jusqu'à présent?
On a enregistré 844 cas d'Ebola, dont 528 décès et 255 personnes guéries. On a réussi à contenir l'épidémie dans deux provinces, donc les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, alors qu'il y avait vraiment un risque très élevé qu'elle se propage rapidement dans d'autres provinces de la RDC et aussi dans les pays voisins. Et jusqu'à présent, aucun cas n'a été notifié dans les pays voisins. Donc, malgré les difficultés, on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun cas d'Ebola dans le pays.
Quand pourriez-vous déclarer que l'épidémie est officiellement terminée?
On pourra déclarer la fin de l'épidémie quand le pays aura passé 42 jours sans notifier aucun nouveau cas d'Ebola.
Jessica Ilunga, porte-parole du ministère congolais de la Santé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Sénégal, c'est dimanche que les électeurs doivent se rendre aux urnes pour choisir leur prochain président. Poursuivant sa série sur les attentes de la population à la veille de ce scrutin du 24 février, notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué, se concentre aujourd'hui sur l'agriculture et l'élevage.
Au Sénégal, l'agriculture occupe une place importante dans l'économie. Elle représente 7,2% du produit intérieur brut. Le pays présente une série de facteurs qui le rendent attractif pour les investissements dans l'agriculture et l'agroagriculture. Pour Abdou Salam Fall, certaines contraintes minent le secteur. Ce quadragénaire souhaite que sa doléance soit prise en compte par le prochain président élu. Pour lui, le développement de l'agriculture peut impacter toute une région.
Les droits de douane sont suspendus, les droits fiscaux certains en tout cas sont suspendus, on ne les paye pas, de manière à ce que nos prix de revient puissent être compétitifs et qu'on puisse exporter et compétir sur le marché européen avec d'autres sociétés. 2500 travailleurs au bas mot, sans compter l'effet d'entraînement de toute l'économie locale, le transport qu'on développe, la restauration, l'habitat social et plein d'autres choses qui font que l'économie, en tout cas de la région, on l'a boosté.
L'élevage aussi occupe une place appréciable dans l'économie sénégalaise. Il constitue, comme l'agriculture, l'une des principales activités génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois. Mais les éleveurs sont confrontés à de nombreuses difficultés et pour Ousmane Tall, le futur président doit entreprendre des réformes.
Il faut des fermes agricoles pour une bonne prise en charge du cheptel. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Il faut que l'on se concentre sur ce qui peut nous permettre de nous développer. Il faut favoriser les échanges de races avec d'autres pays. Aider les éleveurs à produire du lait local. Il faut faire en sorte que l'herbe pour les troupeaux pousse, quelle que soit la période de l'année.
Les attentes sont nombreuses du point de vue économique, notamment dans l'agriculture et l'élevage, qui sont des filières génératrices de revenus. D'après beaucoup de Sénégalais, le président élu doit faire de ces questions une priorité et surtout faire des réformes pour améliorer la vie de la population rurale qui est souvent la plus démunie. À Dakar, Sedina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, cinquième semaine de grève à l'université Oufoué-Boigné de Cocody à Abidjan. Johnson Zamina Kwasi, le leader du premier syndicat des professeurs d'université publique, a été inculpé et écroué pour trouble à l'ordre public. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint le docteur Silver Cazon, maître assistant à l'université Oufoué-Boigné et membre de la coordination nationale des enseignants-chercheurs.
Le mouvement continue. On a trois revendications majeures depuis quelques préalables. La première revendication, c'est la revalorisation du salaire. Ensuite, la revalorisation des primes de recherche et des taux horaires. À côté de cela, on a quelques préalables. Voilà, notamment la levée des sanctions administratives et judiciaires qui pèsent sur les collègues actuellement, la révocation du président de l'université, et puis le respect des différents accords liés aux négociations que nous avons eues avec le président de l'université, M. Abou Kamo.
Vous êtes au moment où je vous parle au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous êtes en négociation avec le ministre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passent ces négociations?
En tout cas, le ministre est disposé à discuter avec nous. Donc, nous avons jeté en quelque sorte les bases des négociations. Nous lui avons présenté toutes nos revendications et les griefs à l'encontre du président de l'université, M. Oufoué-Boigné. Donc, il a pris acte. Il nous a fait part de ses préoccupations. Donc, chaque temps, nous nous retirons pour aller analyser chacun. Et puis, bon, voilà, on a prévu de donner rendez-vous d'ici le début de semaine prochaine.
Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les préoccupations du gouvernement?
Le gouvernement estime qu'il faut un environnement apaisé pour mener à bien les discussions. Parce qu'il y a des problèmes qui sont venus depuis le 17 décembre jusqu'à ce jour, à cette parenthèse-là. Et à côté de cette parenthèse, il y a aussi nos revendications corporatives qui sont contenues dans un document que nous leur avons versé.
Est-ce que vous avez appelé à la libération de vos deux collègues arrêtés?
Non, naturellement, on a demandé cela, mais on n'en fait pas un préalable par rapport à la résolution de nos revendications, de nos problèmes. Nous pensons que le gros problème aujourd'hui du système d'enseignement supérieur, le gros problème se trouve à l'université Oufoué-Boigné, notamment avec la présence d'un président qui n'est pas ouvert au dialogue. Nous demandons purement et simplement sa révocation.
C'était le docteur Silver Cazon, maître assistant à l'université Oufoué-Boigné et membre de la coordination nationale des enseignants-chercheurs.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
L'un des plus grands succès du premier sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, ça a été la tenue elle-même de ce sommet. Mais lorsque les deux dirigeants vont se retrouver la semaine prochaine au Vietnam, il faudra bien plus qu'une simple rencontre. Les attentes pour ce deuxième sommet avec John Linden.
L'année dernière à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un ont accepté de travailler à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Cette fois-ci au Vietnam, il faudra clarifier ce que signifie cette idée et comment la mettre en œuvre. Robert Manning, conseiller atlantique.
Je pense qu'il y aurait pression des deux côtés pour obtenir un résultat tangible, contrairement au premier sommet. Sinon, je pense que ce sera un échec et nous reviendrons à la case départ.
Les États-Unis veulent que la Corée du Nord fasse un pas vers le démantèlement de son arsenal en détruisant un site nucléaire important ou en fournissant une liste de ses stocks d'armes nucléaires et de missiles. La Corée du Nord veut que les États-Unis allègent les sanctions ou mettent officiellement fin à la guerre de Corée. Le résultat le plus productif sera un accord pour confier ce processus à des experts. James McKeon du Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération.
Les deux dirigeants ne peuvent pas tout résoudre par eux-mêmes. Je ne pense pas qu'ils puissent régler certaines questions vraiment complexes pour lesquelles vous aurez besoin de scientifiques et d'experts techniques.
Il y a des signes que la rencontre au Vietnam sera plus importante que celle de Singapour. Lors de leur première rencontre, Kim Jong-un et Donald Trump avaient signé une déclaration très vague pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Depuis, aucun progrès n'a été réalisé. Les deux parties ne sont même pas d'accord sur le sens exact de cet engagement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.